Donc maintenant, nous avons un temps de discussion. Je trouve que c'est toujours utile de... Je présente quelque chose, après vous l'essayez. Et puis après, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que j'élucide certaines choses? C'est vraiment ouvert. Oui.
La gradation agréable, désagréable, agréable, désagréable et neutre, en fait, ça revient à dire j'aime, j'aime pas, et ça me fait rien. Donc, ce sont des réactions qui passent par le cerveau, quand même. Donc, on est là dans la sensation mentale. Oui ou non?
Non, c'est. C'est une très bonne. Non, c'est un très bon commentaire, parce qu'il est vrai. Et c'est ce que. Parce que j'aimerais. La discussion, c'est un peu pour orienter cet après-midi, parce que ce matin, dans un sens, je ne pouvais pas parler de tous les aspects de Vedana, de la tonalité du ressenti, qu'on peut appeler sensation, qu'on peut appeler sensation mentale. Et en fait, il faut voir que. C'est pas comme une séquence. C'est pas, il y a le contact et il y a la tonalité, mais c'est immédiat. Il y a cinq choses qui se passent ensemble quand on est un être humain, mais le chat aussi, ça marche un petit peu, dans un environnement. Il y a le fait qu'il y a le contact, il y a la tonalité, il y a la perception, il y a l'attention, il y a l'intention. Donc tout ça coalesce ensemble. Et donc, ce qui est très intéressant par rapport à la tonalité, c'est quand dans le texte, le Bouddha dit qu'il peut y avoir en fait une tonalité ordinaire et une tonalité plus éclairée. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus, je pense, demain. Et donc, oui, généralement, la tonalité va nous faire voir, dans un sens, la perception construite au fil du temps, la personnalité générée à travers différentes conditions au fil du temps. Et donc, généralement, quand on voit une couleur et qu'on réagit à une couleur, ou qu'on réagit à un son, ou qu'on réagit à un goût, à midi, pendant la pause déjeuner, vous aurez là un très bon champ d'exploration. Généralement, c'est totalement conditionné. C'est parce que nous, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, nous, on a l'impression que la tonalité est dans la chose. Donc, que la tonalité est dans la couleur, que la tonalité est dans l'objet. Et ce qu'on réalise avec la pleine conscience de la tonalité, c'est que généralement, c'est nous. Bien sûr, il y a des choses qui sont rapide et essentiel, comme si on touche quelque chose de chaud, immédiatement c'est désagréable et immédiatement on a une réponse rapide. C'est évolutif, on a besoin de ça. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup de choses, c'est vraiment peut-être conditionné de différentes façons. La même chose peut nous donner un sentiment agréable ou désagréable, selon le temps, selon notre humeur, selon différentes choses. Donc, oui, la perception influence totalement la tonalité, il n'y a pas de doute par rapport à ça, et aussi les conditions passées vont beaucoup influencer comment on a les tonalités maintenant. Et donc, oui, c'est là où il y a tout un champ de possibles, et je trouve intéressant que le Bouddha dit qu'en fait, les tonalités, on peut les approcher d'une façon ordinaire où il y aura beaucoup plus de moi, de fixation, de crispation, d'amplification, ou on peut les aborder de manière plus éclairée. Et alors là, les tonalités, en fait, seront différentes. Donc, elles auront un peu la même agréable, désagréable, mais il n'y aura rien qui sera ajouté, qui peut être néfaste dans un sens, on pourrait dire. Et donc, on parlera, je pense, plus de ça demain.
Oui.
Par rapport à ce commentaire, j'avais une autre de réflexion. Vous avez dit que la tonalité de ressenti se représente comme une bulle qui est éphémère, qui s'éclate. Dans mon expérience qu'on a fait dans la matinée, j'ai remarqué que c'est la durée de vie de tonalité de ressenti est strictement liée aux pensées. Donc ça se déclenche par une pensée et ça dure la durée d'une pensée. Donc si je m'accroche à cette pensée, la tonalité dure. Si je laisse passer, comme on devrait faire pendant la méditation, ça part et ça éclate effectivement comme une bulle. Donc je suis un peu... Hein,
non,
vous voyez ce que je...
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, et c'est pour ça que, dans un sens, chacun va apporter son expérience, son éclairage par rapport à ça. Et donc, ça, non, c'est un des trucs. Et c'est pour ça que le Bouddha dit, ça peut être une sensation, et on a l'impression que c'est plus physique, et ça peut être aussi une sensation, un ressenti qui est plus mental, dans le sens qu'il y a... Il y a le contact, il y a la tonalité à cause des conditions, comme la dame en parlait. Et après, nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et généralement, c'est ce dont je vais parler cet après-midi, c'est le fait que le Bouddha dit, nous avons un sous-jacent, un automatisme par rapport aux tonalités. Donc si la tonalité est plaisante, sous-jacente, il y a un automatisme. Si elle est neutre, il y a un autre automatisme. Et si elle est désagréable, il y aura un autre automatisme. Et donc, la méditation, ce n'est pas pour arrêter la tonalité, qui est très utile d'avoir, mais cet automatisme sous-jacent qui va, comme vous le dites, l'amplifier. Et donc, là, on peut aussi remarquer ce que j'appelle les trois niveaux. Que si le contact est léger, généralement la tonalité va être relativement légère aussi. Et si on ne fait rien avec, comme vous le dites, c'est comme une bulle. Ça arrive, ça part. Si c'est quelque chose de plus habituel, donc c'est un contact qu'on a de temps en temps, on a un peu la même réaction à ce contact, c'est très difficile de ne pas l'associer au passé et de ne pas l'associer au futur. Et donc, vous avez dans un sens le contact même avec la tonalité même, mais à cause généralement des pensées, il va y avoir cette association du passé et du futur. Et c'est pour ça que le Bouddha parle aussi des tonalités par rapport au passé, par rapport au futur. Et donc, quand on voit qu'est-ce qu'on fait avec les pensées, c'est intéressant, soit on brode sur le truc, soit on l'associe à d'autres temps, passé et futur. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a le contact, la tonalité, et avec les pensées, qu'est-ce qu'on en fait? Et où ça nous amène aussi. Et il y a le niveau qui est intense. Alors ça, c'est quand quelque chose de surprenant, agréable ou désagréable nous arrive. Et là, c'est quand même un choc au système. Et donc, il va y avoir une certaine intensité. Donc, généralement, on va passer très vite. La tonalité sera là, mais on pourra pas rester juste... C'est pas une bulle, parce que c'est plus comme quand on perd quelqu'un, quand on a un accident, quand on est malade, enfin, des tas de choses. Et alors là, on va être plus pris. Donc, le mécanisme de pensée va être plus amplifié. Et alors là, la méditation peut nous aider à ne pas le faire en bulle tout de suite, parce que c'est un peu loin, mais à créer de l'espace. Et donc, il y aura moins d'amplification. J'en parlerai plus. Donc, c'est tout à fait juste. Que si on le regarde avec un certain regard par rapport à l'impermanence, qu'on reste ici, généralement, il y aura plus cet effet bulle. Mais ça dépendra un peu du contact. Si le contact est léger, habituel, oui. Si le contact est intense, généralement, il y aura quand même trop de puissance dans l'effet pour que ça puisse se faire. Mais au fil du temps, on pourra le regarder d'une façon qui sera plus légère. Tout à fait. Oui.
Est-ce que finalement, c'est ce que tout stimuli extérieur va provoquer comme émotion en nous ? Ou c'est plus subtil, c'est justement avant qu'on perçoive vraiment cette émotion ?
Alors, de nouveau, ça va dépendre. Ça va dépendre un petit peu. C'est pour ça que c'est relativement complexe, parce que ça va dépendre un petit peu de différentes choses. Ça va dépendre du niveau du... Si on parle stimulé, ça va dépendre du niveau du contact. Ça va dépendre du niveau d'attention. Ça va dépendre si ça nous fait agir, qui va un peu le consolider. Et donc, je dirais que si les conditions ne sont pas intenses, parce que là, c'est un peu spécial, si les conditions sont relativement ordinaires, je pense que ce qu'il y a d'abord, c'est vous avez le contact et la tonalité. Après, généralement, ça amène, si on s'y accroche et on le développe, généralement plus comme une sensation physique, ce que j'appellerais une sensation émotionnelle, on pourrait dire, qui, au fil du temps, généralement avec aussi les pensées qui sont là, va amener quelque chose de plus émotionnel et après qui pourra devenir plus caractéristique, tristesse, anxiété, colère, joie, excitation, etc. Donc, il y a le stimuli. Donc, oui, au niveau du stimuli, il y a le contact, il faut qu'il y ait contact. Et immédiatement, il y aura en même temps un ressenti. Et le ressenti dépendra du conditionnement. Et après, ça dépendra de l'intensité du contact, de l'intensité de la tonalité. Mais généralement, ce qui se passe, comme mon ami conférencier le disait, on va s'en rendre compte. Quand on est rapidement passé de la tonalité à la sensation plus émotionnelle corporelle, passé au sentiment, ce que j'appellerais un vrai sentiment, qui va devenir une émotion, qui après peut devenir une émotion perturbatrice. Et à ce moment-là, on est un peu généralement souvent coincé, parce que ça, c'est devenu très fort. Mais je pense que c'est devenu très fort, pas seulement par rapport à la pensée, je pense qu'il y a une sorte de système de ressenti physique, pensée, émotion qui se s'amplifie l'un l'autre quand on arrive à la pensée, à l'émotion perturbatrice. Et donc l'idée un peu, c'est si on peut se rendre compte plus au début, il pourra toujours y avoir une émotion perturbatrice si c'est quelque chose de fort, mais on va peut-être pas y aller autant. Et ça ne sera peut-être pas autant difficile. C'est ce que vous...
Oui. Moi, c'est le rôle des mots, le fait de nommer qui me pose question, parce que la tonalité, et qu'on passe à la sensation, est-ce qu'on a besoin du mot ? Se dire, ah ben, c'est de la tristesse, qu'est-ce que j'éprouve ? Ben, voilà, le besoin de nommer, il est après... La sensation, il n'est pas en même temps. Et le fait de nommer, c'est déjà du commentaire. Donc
Alors, c'est pour ça. De nouveau, ça, c'est par rapport aux techniques de méditation. Alors, d'abord, je dois dire que si je veux expliquer l'idée, il faut que j'en parle. Donc là, je vais utiliser différents langages, etc., etc. Mais dans la façon que je suggérerais de pratiquer la méditation, en fait, ce ne sera pas de nommer. Mais juste d'utiliser, essayer d'aller plus profondément dans l'expérience. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant, et sans nécessairement employer des mots. Personnellement, j'ai jamais vraiment employé plaisant, déplaisant, désagréable, mais juste être conscient, qu'est-ce que je ressens à ce niveau-là. Mais bien sûr, il y a d'autres techniques. Par exemple, la technique qu'on appelle la notation, de nommer. Et là, les personnes diront agréable, désagréable, neutre. Ça peut aider certaines personnes, donc je ne vais pas dire de ne pas le faire. Mais personnellement, je serais un petit peu de ce côté-là de dire que je sens que c'est plus utile pas en ayant, en allant dans le ressenti de telle façon à être plus conscient de cet aspect de notre expérience que dans, c'est pas une analyse scientifique où on veut toutes les gradations et tout ça. Alors quand j'en parle, j'essaie de parler de différents aspects pour qu'il y ait plus d'éclairage.
Parce que, effectivement, les mots permettent, font à la fois un écran et en même temps permettent aussi d'affiner.
Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut les utiliser un petit peu pour se rendre conscient de ce qu'on essaie d'être conscient? Parce que moi, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre cette méditation. Et parce que, surtout, j'essayais de faire ça en méditation. Et quand je méditais, j'étais généralement plutôt en neutre. Et donc, je cherchais quelque chose qui était pas grand-chose. Jusqu'au moment où je me suis dit, ah, ça c'est le neutre, ok, bon, maintenant j'ai compris. Et j'ai vraiment vu la différence quand une fois j'étais devant un paysage incroyable, je m'ouvre en pleine conscience au paysage incroyable et sans en fait commenter c'est beau, c'est fantastique, etc., j'ai ressenti quelque chose qui était du domaine de l'agréable, on pourrait dire, qui est différent que... L'autre jour, je ne sais pas si je devrais en parler avant le déjeuner, mon chat, j'ai des problèmes avec mon chat en ce moment. Et tout d'un coup, il giglait du sang. Ouh ! Et immédiatement, oups, je pouvais ressentir quelque chose de très désagréable, en fait. Enfin, il ne criait pas, il ne disait rien, lui. Hein, il avait son petit truc. Et moi, j'étais par rapport à... au sang, par rapport à le pauvre, par rapport à... Mais il y avait plein de choses qui... Il y avait la tonalité qui était immédiatement... Alors, bien sûr, j'ai fait... Maintenant, il ne le fait plus, il a les médicaments et tout ça, et tout ça. Mais c'était intéressant pour moi de voir, juste de voir. Et la tonalité. Oui ?
Allez. Moi, j'ai des difficultés avec le ressenti neutre. J'ai l'impression que je ne le détecte pas.
Alors, quand on ne le détecte pas, on l'a détecté. C'est ça, en fait, qui est très difficile par rapport, je dirais, c'est ça qui est très difficile par rapport à cette méditation, d'essayer de le faire, surtout avec la respiration, et surtout quand on se sent relativement OK. Parce qu'on va s'asseoir en méditation et on va être dans généralement quelque chose d'assez neutre. Et quand c'est neutre, c'est comme si on est en face du papier blanc. Hein. Voilà. Et on ne voit pas grand-chose. Et donc, on peut voir plus de différences. Enfin, on peut aussi voir, j'en parlerai plus cet après-midi, si on a un automatisme par rapport au neutre. Il y a des gens qui ont des automatismes par rapport au neutre. C'est terrible. En fait, le neutre devient très rapidement désagréable.
Moi, je passe.
Voilà.
Je glisse sur le neutre.
Voilà.
Donc, je vais faire des sensations plus fortes.
Voilà. Ça, c'est généralement aussi ce que l'on fait souvent, c'est qu'on va passer. C'est dur d'être avec le neutre, ouais. Pas parce que c'est dur, non. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est un peu le défi. D'être conscient du neutre quand on s'assoit. Et je pense que c'est pour ça que quand on s'assoit en méditation, ça peut être un peu...
Ennuyeux.
à cause de ça. Parce qu'on a souvent la perception que le neutre, c'est ennuyeux. Alors on en parlera plus cet après-midi. Et donc, oui, c'est ça. Mais moi, une fois que j'ai découvert le neutre... En fait, pour moi, c'était une grande découverte. Je suis très fan du neutre. Et parce qu'avec mes amis, on a en fait des grandes discussions par rapport au neutre. Dans cette conférence, il y en avait qui pensaient que le neutre n'existait pas. Steven pense que le neutre n'existe pas. D'autres qui pensaient que c'était indéterminé. D'autres qui pensaient que c'était le début de la sérénité, etc., etc. Donc, le neutre, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Même si le Bouddha le définit hein, comme une tonalité qui existe. Hein. Mais lui, il dit plutôt ni plaisant ni déplaisant. Et donc, si on dit ça, ni plaisant ni déplaisant, ça a moins cette impression de neutre avec lequel on, généralement on peut avoir une petite réaction. Donc je pense que pas de se forcer à être dans le neutre, mais de voir un peu la différence aussi, comment on est avec, et bien sûr on ira quelque chose de plus fort parce que là on pourra le voir mieux. Donc c'est pas qu'on est forcé à rester dans le neutre, mais pour moi un des grands trucs au sujet du neutre, c'est de découvrir que le neutre, au moins, il n'y a pas de choses désagréables qui se passent. C'est déjà ça. Parce qu'une fois, je parlais de ça à un groupe, et il y a une dame, elle était très sympathique, polonaise, qui avait immigré en Angleterre. Et elle me disait, quand elle est arrivée à Londres, elle était, oh là là, Londres, moi je pensais que ça allait être fantastique, c'est ennuyeux, parce qu'elle était dans le neutre. Et puis elle a eu un mal de dents, mais alors vraiment un mal de dents incroyable, et elle s'est dit, ah non, le neutre c'était mieux quand même.
Est-ce que l'ennui c'est le neutre, ou c'est désagréable?
Alors ça, on en parlera plus cet après-midi. C'est que en fait, avec le neutre, c'est la perception, c'est pas le temps. Parce qu'avec agréable et désagréable, le temps va être ce qui va faire la condition, tandis qu'avec le neutre, la perception va faire la condition. C'est ça qui est intéressant par rapport à ça. Et j'en parlerai plus cet après-midi.
Vous avez expliqué qu'il y a un contact, qu'il y a une ressentie, et après une réaction. Mais le fait de nommer agréable, désagréable, la neutre, c'est déjà une réaction. Ça fait, le simple fait de nommer, c'est déjà, pour moi, c'est une réaction.
Alors,
ça devient pas comme ça linéaire. En fait.
Alors, premièrement, ça dépend ce que l'on veut dire par réaction. Est-ce que c'est juste un stimuli-réponse? Ou est-ce que c'est une réaction en tant que réaction qui va amplifier? Donc, il faut faire attention comment on utilise le mot. Et deuxièmement, il faut voir que, en fait, quand on pense assez à la tonalité, il faut penser que c'est simultané, qu'en fait, c'est pas linéaire, qu'il y a le contact, après, il y a la tonalité, après, il y a ci, après, il y a ça. Mais qu'en fait, il y a les cinq qui vont venir ensemble. Que pour toute expérience consciente, il faut qu'il y ait le contact. En même temps que le contact, immédiatement, il y aura la tonalité. Immédiatement, il y a la perception. Immédiatement, il y a eu l'attention qui s'est portée sur le truc. Et il y a beaucoup de chances qu'immédiatement, ça va nous faire nous mouvoir vers quelque chose. Et donc, si la méditation, la pleine conscience fait quelque chose, tout à fait, parce que si vous introduisez la pleine conscience dans l'histoire, ça va être moins automatique, dans le sens que, tandis que si on introduit la pleine conscience, la tonalité, c'est pour ça que je pense que le Bouddha parle de tonalité ordinaire, à laquelle on va réagir d'une façon relativement automatique et ordinaire. Et si on a cette pleine conscience, cette tonalité éclairée, et pour lui, tonalité éclairée veut dire que à ce moment-là, on ne voit pas seulement la tonalité, mais on voit aussi qu'elle est impermanente. On voit aussi qu'elle ne me définit pas. J'en parlerai plus demain.
Quand j'ai regardé ce matin, je commençais à faire comme vous avez expliqué, mais j'ai vu un glissement qu'après, quand je découvre la tonalité, je vais vers la question qui ressent cette tonalité.
Oui, alors ça, c'est... Alors ça, c'est une autre question qu'on va peut-être regarder demain. Parce que oui, ça c'est une grosse question aussi.
Ça se fait naturellement et après je
peux. Ah oui, et on pourrait demain, je me demandais si Oui, on pourrait utiliser le questionnement pour regarder ça. Oui.
Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on inclut les pensées dans les objets de sensation, vu que le mental, c'est le 16e organe de sens?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
C'est-à-dire, c'est aussi comme quand il y a une pensée, on peut la prendre comme la réaction à sensation ou comme la sensation elle-même.
Oui, 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 parce que...
c'est comme un objet de sensation.
Oui, 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 oui. Alors, il y a deux choses qui... Y a des, alors, c'est pour ça que de temps en temps, j'ai mentionné le contact avec les pensées. Et donc, le problème un petit peu avec ça, c'est que, oui, c'est une bonne idée, parce que ça nous fait voir plein de choses, en fait, si on fait ça. Mais ça dépend comment on va le faire. Parce que si vous essayez, OK, je vais regarder le contact avec mes pensées. Donc, je vais prendre comme ancre mes pensées. Et en fait, vous n'allez pas avoir de pensées. Parce que si la conscience, dans un sens, se regarde elle-même et qu'il y a assez d'attention, pendant un petit moment, il n'y aura pas de pensée. Mais bien sûr, à un moment donné, l'attention va baisser et là, il y aura des pensées. Et donc, à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'en parle plutôt de le faire sur le côté, parce qu'autrement, on peut rester comme ça, mais il faut faire attention à ne pas focaliser sur la tête, parce que ça peut aussi vous donner du mal de tête. Et c'est pour ça que je recommande, on le fait avec les autres ancres, la respiration, etc. Et après, hop, quand on est distrait par une pensée, on peut, au fil du temps, revenir au début. Parce que si on regarde, on est assis en méditation, on a une pensée, généralement, au début, on va être à la fin de la pensée, après un moment, on va être au milieu de la pensée. Et ce qui est vraiment, moi je dirais, beau dans la méditation, c'est qu'au fil du temps, on peut être quand elle apparaît. Alors là, c'est fascinant parce que là, on peut vraiment voir la tonalité. Qu'en fait, chaque pensée, il y en a qui sont plutôt neutres, donc ça ne va pas nous faire grand-chose. Et elles vont passer rapidement, comme des bulles. Et il y en a d'autres où elles sont, à cause de la conditionnalité du passé et tout ça, elles ont un truc. Une qu'on peut voir, c'est les rêvasseries. On est assis en méditation, l'intention d'être ici, et puis tout à coup, il y a cette pensée qui apparaît. Si je gagnais à la loterie, si mon livre était un best-seller, si je pouvais partir à Tahiti, je ne sais pas qu'est-ce qui marcherait pour vous. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a ce dé, puis après on part dans un film, on se fait un film qui est généralement très agréable. Et qu'est-ce qu'il y a là? En fait, une tonalité incroyablement agréable. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire ça en méditation. Alors moi, c'était mes deux trucs, il y a très longtemps, quand j'étais en Corée. C'était soit j'allais partir dans un ermitage et j'allais pratiquer tellement dur, je serais éveillée tellement fantastique, je pourrais sauver tout le monde. Ou soit j'allais devenir une kung-fu maîtresse. Alors ça, c'était mes deux trucs. Jusqu'au jour où j'ai vu que le contact, la tonalité était vraiment agréable. Alors pour certaines personnes, ça serait comparable à quand vous voyez un gâteau au chocolat ou quand, je ne sais pas, vous voyez une œuvre d'art ou quelque chose comme ça. C'est Et donc, oui, c'est très intéressant de voir, parce que vous pouvez avoir des pensées qui, immédiatement, comme ça, ont cette tonalité agréable, ou ont des tonalités très désagréables aussi. Comme on peut être assis bien ici, et tout d'un coup, il y a un souvenir qui monte, un mot que quelqu'un a dit, et immédiatement, il y aura une tonalité très désagréable. Donc, ça fait partie vraiment aussi, bien sûr, de la méditation, bien sûr.
Martine, vous pouvez répéter les cinq choses qui viennent en même temps, simultanément?
Alors, ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle les facteurs de conscience qui sont là. Ça veut dire que un moment de conscience aura ces cinq trucs. Et quand il y aura ces cinq trucs, il y aura un moment de conscience avec le corps et avec l'environnement. Donc les trois ensemble, l'environnement, le corps et ces cinq choses, pouf, c'est nous, ici et maintenant. Donc, les cinq choses, ça s'appelle en termes pali, nama, rupa. Alors, les cinq, c'est les nama, les facteurs nama, N-A-M-A, et rupa, ça veut dire le corps dans son environnement. Donc, les cinq facteurs nama, c'est donc les cinq facteurs de conscience, c'est le contact, la tonalité, la perception, l'attention et l'intention. Et ils sont tous, enfin, si on est un être humain qui marche, ils sont opérationnels. Mais il faut voir que c'est juste une nomenclature. Hein, c'est, il y a d'autres nomenclatures dans le bouddhisme, il y a d'autres nomenclatures en dehors du bouddhisme. Hein, mais moi, je trouve que c'est une nomenclature qui est assez utile. Et c'est pour ça que je l'utilise, en fait. Parce que ça nous montre les différents aspects, les différentes choses qui viennent ensemble. Et je pense que la méditation, c'est... On a ses capacités, ses qualités, ses possibilités. Et après, ça va, dans un sens, les développer, les affiner. Mais d'une manière qui va être bénéfique.
Je connais la différence entre la tonalité et la perception. La perception et la tonalité.
Alors, de nouveau... Ça se passe tous ensemble et c'est difficile de dire ça c'est ci, ça c'est ci. C'est pas une analyse scientifique. Mais on pourrait dire que la tonalité, ça a plus comme une couleur du ressenti. Et donc ça partira plus, on dirait, dans quelque chose qui aura à faire avec l'émotionnel. Comme disait la dame, j'aime, j'aime pas.
Vous avez dit, vous avez parlé d'agréable, désagréable, neutre.
Oui.
Agréable, désagréable, c'est plus du sensoriel, non?
Voilà, c'est du sensoriel en fait, mais c'est on essaie de...
C'est un mélange d'émotionnel, de sensoriel, de sentimental,
voilà, voilà,
voilà. C'est un peu tout. Quoi.
Voilà, on met ça dans cette case. Okay. Mais ce n'est pas totalement séparé de la case perception, qui sera plus comment le monde a un sens, mais sens dans le sens qu'on comprend ce qui se passe. L'attention, c'est le fait qu'on peut poser son attention sur quelque chose. Parce que souvent, pour être en contact, à moins que quelqu'un nous fasse ça, généralement, pour être en contact, il faut que notre regard... si je regarde là, je ne suis pas en contact avec le téléphone. Alors, si je suis en contact avec l'iPhone, je comprends que c'est un iPhone. Peut-être pas un iPhone, mais c'est un smartphone. Voilà. Mais si je regarde là, je ne le vois pas, donc je ne suis pas en contact avec ça. Là, je regarde là, j'aurai une certaine tonalité, je peux me fixer dessus. Intentionnellement, je ne pense pas que je vais faire grand-chose, à part que je me dise, ah, c'est un beau parquet, j'en veux un comme ça à la maison, mais voilà. Ici, ah, il y a un smartphone, donc contact, je le vois. Tonalité ordinaire, neuf, pour le moment. Si vous avez un son, ça ferait peut-être différent. Après perception, je reconnais que c'est un smartphone. Attention, je le vois. Et intention, qu'est-ce que je vais faire avec? Le fait que je vois le smartphone, est-ce que ça va me faire faire quelque chose, me faire mouvoir? Mais ça, c'est juste une nomenclature. C'est pas, il faut faire attention que quand on a des nomenclatures comme ça, des explications comme ça, c'est pour essayer de faire émerger... un peu de pleine conscience par rapport à certains aspects, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie et que tout peut rentrer dans ça. C'est juste...
Mais c'est impossible que ce soit simultané.
Ah, ouh, mais alors là, on peut... Là, on part dans l'ibet. On part dans l'ibet. Ça, c'est... Ça, je pense que c'est très difficile. OK, il y a un scientifique. Je lisais... Libet est un scientifique qui a fait une expérimentation qui a relativement prouvé, mais les gens le questionnent un petit peu, c'est qu'on va bouger avant qu'on pense. On va bouger, on va se mouvoir avant qu'on pense. Alors c'est une expérimentation, c'est une, comment on dit ça en français, une expérience scientifique qui est très connue. Libet, c'est I-L-I-B-B-E-T, je pense. Alors, depuis, il y a des gens qui ont questionné tout ça. Il a même lui-même questionné tout ça. Donc, c'est toujours compliqué de dire que les choses sont... Ça, c'est... Parce que ça apparaît très rapidement. Donc, après, c'est à quel moment on fait la séquence. Oui.
J'ai un problème avec la notion de perception. Vous venez de dire que vous percevez le smartphone, c'est la reconnaissance. Est-ce que la différence entre la perception et la conscience de à quel moment se produit la reconnaissance d'un objet?
Alors là, on part dans quelque chose de trop, si je peux me permettre. En fait, je suis en train de dire que toutes ces cinq choses forment un moment de conscience.
Et la perception, c'est la reconnaissance d'un objet.
Alors la perception, au départ, ouais, c'est juste le fait que l'objet, on le reconnaît. Ça a un sens. Et de la perception, au fil du temps, ça peut devenir la sagesse. Donc, on peut commencer par le fait qu'on puisse reconnaître. C'est, par exemple, si je mettais un signe chinois, je peux écrire un signe chinois. Vous voyez, à moins que vous connaissiez le chinois, vous verrez juste du noir sur du blanc. Moi, je vois le signe. Je vois le signe noir sur blanc, mais aussi, je connais le sens. Donc, c'est juste le fait qu'on puisse reconnaître quelque chose. C'est tout.
Dans les deux cas, c'est la perception.
Ouais, ouais. Mais il y a une perception très simple et il y a une perception très compliquée. Moi, je suis totalement étonnée par mes chats. Ils ont leur truc plein de croquettes et ils ont la perception que c'est des croquettes et pas question, c'est fini. Et ils attendent. Alors, je prends le paquet et ils ont la perception que c'est ça qu'ils veulent. Ah, moi, je trouve que c'est fantastique. Mais bon, voilà. On va finir là. On va finir là. Et donc, là, maintenant, on a une heure et demie de déjeuner. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que cette pièce va rester en silence. Je pense que l'idée, est-ce que c'est que les gens qui mangent là-bas restent en silence aussi? Ok, donc l'idée est que ici...
Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent rester ici pour se reposer ou...
Voilà, alors dans la pièce, dans oui. La pièce. Après la question,
pour
c'est...
Pour manger, c'est là-bas ou dehors?
Et alors, là-bas ou dehors, ils doivent être en silence non. Ou...
Alors, c'est comme tu décides, hein. C'est toi qui...
Alors, moi je me demande si les gens... qui veulent rester en silence restent dans la pièce là-bas. Elles mangent là-bas comme ça. Les gens qui veulent manger en silence peuvent manger en silence tranquillement. Et les gens qui veulent manger dehors dans un coin là-bas, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être autour, qui vont manger aussi, qui vont parler, peuvent parler. Et les gens qui veulent manger à l'extérieur, bien sûr, peuvent être en silence s'ils veulent et peuvent se parler s'ils veulent. Voilà. Est-ce que ça...
Très bien.
Ah oui, je voulais juste te parler parce qu'on est conscient qu'il y a des personnes qui vont peut-être partir après midi. C'est le fait que ce que vous avez payé pour la journée ou les deux jours, en fait, ça paye juste pour mes transports et pour
la salle,
etc., etc. Et moi, je ne reçois rien. Et donc, on garde le système du Dana, parce que de cette manière, les gens peuvent vraiment faire selon leurs moyens. Donc, si vous avez peu, vous donnez peu. Si vous avez plus, vous donnez plus. C'est vraiment ce qui vous convient. Et donc, c'est vraiment... moi, je donne avec générosité. Je suis contente d'être avec vous. Après, si vous voulez... soutenir ce que je fais et si vous avez un petit peu de moyens de mettre quelque chose dans la boîte rouge, vous serez très reconnaissant. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de somme indiquée. Après, il y a toujours la question. Ça, c'est toujours la question intéressante. Tonalité du ressenti. Alors, argent, tonalité du ressenti. Alors là, c'est intéressant. Et donc, il y a toujours la question, est-ce que je donne le moins? Où est-ce que je donne le plus? ou est-ce que je donne au milieu? Et là, c'est intéressant de voir la tonalité, comment ça marche. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est de revenir à 2h moins 10. Parce que si tout le monde est là à 2h moins 10, on peut recommencer à 2h. Ok ?
Est-ce que quelqu'un veut rester dans la salle entre midi et 2, à qui je veux confier la clé, si vous voulez ? C'est quelque chose qui a à voir avec le cerveau, le primaire, celui qui est très basique.